Livre d'Esdras au chapitre 1er. Esdras chapitre 1er, les 5 premiers versets. Esdras chapitre 1er, les 5 premiers versets. Je lis au verset 1er, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous lirons d'autres passages un peu plus tard. Je signale, comme je l'ai fait hier soir, que vous devez trouver, surtout pour les amis qui nous rejoignent cet après-midi, un petit document sur vos chaises ou sur une chaise voisine. Si vous n'en disposez pas, faites-nous signe, il y en a ici en réserve. Et c'est un petit document de repère historique. Ceci pour nous éviter de nous perdre dans des considérations d'histoire, mais en même temps pour vous rendre service, puisque grâce à ce petit résumé, vous pourrez situer dans leur ordre chronologique, dans le déroulement du temps et des événements, les livres d'Esdras, d'Agée, de Zacharie, d'Esther, de Malachie et de Néhémie. Voyez, tout cela va reprendre sa place, parce que c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile à mettre ensemble. Alors vous aurez l'occasion, je pense, dans le cours de ce week-end jusqu'à demain matin encore, de jeter parfois un coup d'œil si vous avez besoin de trouvez vos points de repère. Vous le savez, notre thème est celui-ci, devenir un bâtisseur pour Dieu. Et nous nous appuyons sur ces quelques livres que je viens de mentionner, tous sauf celui d'Esther, qui est un peu particulier, pour essayer de tirer des enseignements pratiques valable, important, pour la construction de l'Église de Jésus-Christ là où nous sommes. Et ceux et celles d'entre vous qui étiez présents hier soir, vous avez réalisé que nous avons procédé de manière quelque peu curieuse, puisque nous nous appuyons sur un décret promulgué par un roi païen pour développer notre sujet, parce que ce roi païen, Cyrus, roi des Perses en l'occurrence, a été conduit sans le réaliser par Dieu pour dire des choses extrêmement justes concernant la reconstruction tout d'abord du temple de Jérusalem, de la maison de l'Éternel. Ce décret figure au verset 3 d'Esdras chapitre 1er, tout comme quelques versets plus tôt à la fin de 2 Chroniques 36, et il se compose donc de trois parties. Tout d'abord, une interpellation sous forme de question. Qui d'entre vous quel qu'il soit, et de son peuple. Et c'était notre aire d'envol, notre base de réflexion hier soir. La question de l'identité du constructeur. Appartenir au peuple de Dieu. Et nous avons passé pas mal de temps hier soir à considérer ce que j'ai appelé la tentation de l'amalgame. Importance tout d'abord d'avoir des certitudes, de savoir de manière claire, d'être convaincu sur la base des Écritures et d'une expérience personnelle que l'on est bien membre du peuple de Dieu, que l'on est bien né d'en haut, né de nouveau. Il ne s'agit pas simplement d'être religieux, de s'intéresser aux choses de Dieu, d'avoir même une connaissance d'éducation de Jésus-Christ et de toutes les questions essentielles, religieuses même, qui se trouvent dans les Écritures. Cela est parfaitement insuffisant. Il s'agit d'une rencontre personnelle nécessaire pour quiconque avec Jésus-Christ, qui nous permet, à un moment donné précis de notre vie, de dire, dans ma vie, il y a un autrefois et un maintenant. Il n'est pas nécessaire pour cela d'avoir eu un passé fait de drames, de choses scandaleuses, d'avoir été ce qu'on appelle un pécheur scandaleux et notoire, de manière à ce qu'il y ait une différence extraordinaire de conduite entre l'hier et le maintenant. Certains pensent qu'il faudrait systématiquement que tout le monde fasse une expérience absolument extraordinaire et des choses mirobolantes à raconter pour dire voilà comment j'étais hier, et c'était épouvantable, voilà comment je suis maintenant que j'ai rencontré Jésus-Christ. Les chemins de Dieu sont différents pour les uns et pour les autres. On peut venir à la personne de Jésus-Christ dans le calme, sans aucune expérience extraordinaire, sans avoir derrière soi un passé terrifiant, tout comme effectivement on peut connaître une conversion à Christ bouleversante, absolument radicale, dans laquelle on réalise que à un moment donné, Dieu nous rencontre dans sa grâce et nous arrache par la puissance de son amour et à cause de la croix de Jésus-Christ à des situations dans lesquelles nous nous enfoncions et dans lesquelles nous nous sentions complètement emprisonnés et perdus. Mais ce qui est important, c'est que quel que soit notre statut, quel que soit notre passé, ce qu'il importe, c'est qu'à un moment donné de notre vie, nous puissions confesser de la manière la plus claire qui soit, en ayant dans son propre cœur le témoignage intérieur de Dieu, du Saint-Esprit, qui nous dit « Tu es mon enfant, tu m'appartiens ». Non pas d'abord parce que tu le sens, mais parce que tu as fait cette expérience, je t'ai rencontré, tu as capitulé, tu m'as donné ta vie, tu as commencé à mettre ta confiance dans ma parole vivante, tu es désormais pour l'éternité ma brebis. Et nul ne te ravira de ma main. Cela est absolument fondamental. Si vous gardez une once d'incertitude dans ce domaine, parlez-en à Dieu. Dites-le-lui. Et faites alors un pas décisif. Dites-lui, eh bien, Seigneur, puisque ça n'a pas été clair dans ma vie jusqu'à présent, puisque je me suis contenté d'une certaine religiosité, même évangélique, qui ne sauve pas, je veux vraiment me donner à toi. Je veux vraiment capituler. Je réalise que tu m'as cherché et je viens à toi simplement sur la base de ta parole parce que je sais qu'il n'existe aucun autre nom, aucune autre personne qui puisse me libérer de mon état que la personne de Jésus-Christ. Appartenir de la manière la plus claire au peuple de Dieu. Et sur cette base, nous avons donc évoqué la tentation de l'amalgame. Nous l'avons évoqué à partir du livre d'Esdras, du livre de Néhémie, du prophète Ézéchiel, d'un certain nombre de passages des Écritures, dans lesquels nous voyons combien Dieu attache d'importance à ce que ce soit seulement ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, qui construisent l'Église de Jésus-Christ, et à ce que nous soyons prudents, vigilants, pour résister à toutes les tentations d'amalgame, vigilants face à toute tentative d'infiltration de la part de personnes qui pourraient se réclamer de Dieu, de Christ, du christianisme, de la chrétienté, sans avoir une relation personnelle vivante et juste avec Jésus-Christ et sans accepter dans leur vie le message de l'Évangile, le message des Écritures comme autorité suprême dans leur vie personnelle. Évitez donc l'amalgame. Ne pas abaisser la toise des exigences de l'Évangile au niveau du salut. Ne pas bricoler. Résister à la tentation qui guette les petites minorités qui pensent que le nombre donne du poids, que le poids donne donc de l'influence. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Nous aurions pu partager bien d'autres choses, mais il nous faut aller plus loin et considérer cet après-midi le deuxième tiers de ce décret de Cyrus, toujours verset 3, que son Dieu soit avec lui. Que son Dieu soit avec lui. Et j'aimerais, après avoir évoqué la tentation du découragement, évoquer avec vous cet après-midi la tentation du découragement. Nous allons voir cela cet après-midi, ou la tentation de la résignation. Pour cela, lisons deux ou trois passages dans Esdras, Esdras chapitre 4. Nous nous sommes arrêtés sur les trois premiers versets hier soir. Esdras 4, les trois premiers versets, où face à une tentative d'infiltration de gens qui veulent s'identifier au peuple de Dieu, mais qui ne lui appartiennent pas, les chefs d'Israël, de Juda, répondent, ce n'est pas à nous, à vous et à nous, de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Prise de position très courageuse. Et une fois que cette prise de position intervient, ceux qui ont tenté habilement, je dirais avec des paroles assez mielleuses, de s'introduire, ceux qui ont essayé de faire croire qu'après tout ils avaient bien des choses en commun avec le peuple de Dieu, montrent subitement leur vrai visage. Et je suis frappé dans l'expérience de voir combien cela se vérifie. Des mouvements, des personnes, des tendances qui vous font la cour, qui disent mais vous et nous c'est la même chose, nous pouvons marcher ensemble, nous avons le même vocabulaire, nous avons la même espérance, etc., et qui se montrent tout sourire. Et le jour où ces personnes, ces mouvements entendent avec un infini respect de votre part, mais aussi avec une infinie fermeté, un non clair et net, alors on découvre leur vrai visage. Alors ils se montrent enfin tels qu'ils sont, et vous le voyez au verset 4. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et cela prouve qu'ils ne s'inscrivent pas dans le peuple de Dieu. Ils se mettent alors ouvertement, en quelque sorte, à lutter contre Dieu. Verset 5, ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. C'est-à-dire pendant une bonne quinzaine d'années. Si vous allez dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, Néhémie chapitre 2, nous avons vu dès hier soir que aussitôt Néhémie se dirige vers Jérusalem, aussitôt les ennemis se dressent. Et au verset 19, dès que retentit cet impératif « Levons-nous et bâtissons » au verset 18, il nous a dit qu'ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Nous reviendrons sur ce texte ce soir dans notre troisième étude. Verset 19, « S'emballa le Horonite, Tobija le serviteur Ammonite et Geshem l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. » Et ils dirent, « Que faites-vous là ? Vous vous révoltez contre le roi. » Au chapitre 4, dans les trois premiers versets, nous les avons évoqués, nous les lisons. Chapitre 4, versets 1 à 3, « Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils achever ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobisha, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, « Qu'ils bâtissent seulement ! Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » La tentation du découragement. Une méthode courante de la part de l'ennemi. Quand on désire construire, quand l'ennemi réalise que nous sommes vigilants, que nous ne voulons pas accepter de compromis, que nous obéissons en cela de manière la plus claire aux Écritures, à certains textes précis sur les questions de collaboration, 1 Corinthiens chapitre 6 par exemple, mais tant d'autres passages, alors ils changent de méthode et ils essayent de créer un climat de découragement. Ils tentent de nous décourager en soulignant avec insistance les faiblesses de nos moyens face à l'ampleur de la tâche à accomplir. Vous avez remarqué au chapitre 4 de Néhémie, dans les versets 1 à 3, ces Juifs impuissants, ces montagnes de ruines. Et d'ailleurs, on remarque que les arguments mordent quelque peu, puisque au verset 10 de Néhémie 4, il est précisé que cependant Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Voyez que il y a là comme une certaine atteinte au courage des bâtisseurs. Les arguments quelque peu spécieux des ennemis trouvent un certain écho, mais heureusement, nous allons le voir, il va y avoir une excellente réaction de la part notamment des leaders. Si vous allez dans le livre de Zacharie, donc l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, nous y reviendrons d'ailleurs, au chapitre 4, Zacharie chapitre 4, nous avons, et cela appartient tout à fait à la même période, Zacharie chapitre 4, au verset 7 à 10, et là c'est Dieu qui parle, et il dit, « Qui es-tu, grande montagne ?» Devant Zorobabel, nous aurons l'occasion tout à l'heure d'évoquer Zorobabel, le gouverneur de l'époque qui était rentré avec 50 000 exilés environ. Et donc Dieu dit à Zorobabel, enfin parle à cette grande montagne, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Donc, il y avait un mépris devant le jour des faibles commencements. Et il y avait cette tendance à montrer le travail, l'ampleur de la tâche, comme une grande montagne. Et c'est vrai que quand dans une ville, un poste pionnier démarre, par exemple, qu'on est une poignée, qu'on a à faire face à de l'opposition, même à de l'indifférence, ce genre d'argument peut vraiment déstabiliser, peut faire mal. Il m'arrive ici et là de visiter des postes pionniers chaque année qui souffrent, qui luttent, pour lesquels c'est difficile, et qui ont vraiment besoin d'être encouragés face à ces mépris des faibles commencements. Nous sommes engagés donc dans une sorte de guerre psychologique. Une guerre psychologique pour faire craquer les bâtisseurs. Et l'ennemi s'arrange même dans cette guerre psychologique pour essayer de vous arrêter avant que vous ayez commencé le travail. Vous prenez des décisions, même en réunion d'église, vous envisagez un effort d'évangélisation, vous avez tout un plan de distribution, toute une campagne, etc. Et avant même que vous ne vous mettiez au travail, l'ennemi est déjà en train de ricaner pour vous conduire à ne pas vous engager. Il vous montre toutes les impossibilités, tous les inconvénients, tous les verrous qu'il faudra faire sauter, tous les cœurs qui sont à incliner et qui, de toute évidence, refuseront de bouger. Il vous présente dans votre esprit toutes ces personnes que vous allez inviter et qui, bien entendu, comme elles l'ont toujours fait jusque-là, vous dit l'ennemi, ne viendront pas, même si elles vous ont promis de venir. Vous connaissez ça, hein? Et comme ça, vous avez une batterie d'arguments pour vous amener à baisser les bras avant même de vous être engagé dans un effort. Et il existe un très très ancien spécialiste de la stratégie militaire, des mouvements de troupes, du combat, de toutes les batailles. C'est un Chinois qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui a écrit un ouvrage sur l'art de la guerre, dans lequel il affirme que la plus grande réussite est de détruire la résistance de l'ennemi sans combat. Et il ajoute dans son livre, Sun Tzu, ajoute dans son livre sur la doctrine de la victoire sans guerre, les lignes qui suivent: le sage dirigeant soumet les forces de l'ennemi sans combat. C'est la méthode d'attaque par ruse de guerre en laissant l'épée dans le fourreau. Toute guerre est basée sur la tromperie. Et simplement en lisant ceci, un nom vient de me venir à l'esprit. Immédiatement, d'une situation contemporaine dans laquelle certains, dans le monde moderne, agissent exactement de cette manière dans le domaine politique. Vous avez tout un mouvement au Proche-Orient autour d'Israël, que je ne citerai pas, et qui tient exactement ce raisonnement. Pourquoi faire la guerre quand on peut endormir des consciences à coups de dialogue, par les médias, par des conférences, par des pressions internationales, sans verser une goutte de sang? Eh bien cela, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on le disait déjà, et on en a une foule d'exemples dans les Écritures. Toute guerre est basée sur la tromperie. Si donc nous sommes capables d'attaquer, nous devons en paraître incapables. Quand nous déployons nos forces, nous devons faire croire à l'ennemi que nous sommes très éloignés. Quand nous sommes loin, nous devons lui faire croire que nous sommes prêts. Jetez des appâts pour tromper l'ennemi, feignez le désarroi et écrasez-le. Si vous connaissez l'ennemi et vous-même, vous n'avez pas à craindre l'issue des batailles. Si vous vous connaissez mais ne connaissez pas l'ennemi, vous subirez une défaite pour toutes les victoires que vous obtiendrez. Si vous ne connaissez ni vous-même ni l'ennemi, vous perdrez toutes les batailles. Et il importe que nous soyons au clair pour devenir de bons bâtisseurs pour Christ sur cette tentative, cette tentation du découragement, cette guerre psychologique dans laquelle l'ennemi nous dit « c'est perdu ». D'avance. C'est perdu d'avance. Alors on n'ose pas. On n'ose pas aller voir monsieur le maire, on n'ose pas aller voir les journalistes de la région, on n'ose pas tenter de mettre un article dans les journaux, on n'ose pas, parce que systématiquement, on dit, ben, de toute façon, il faut s'attendre à une réponse négative, ça a toujours été comme ça, et puis nous connaissons les autorités de notre région, et que sais-je encore. Et on se trompe. L'ennemi tente de créer en nous un complexe d'infériorité, de minorité, d'incapacité, d'incompétence. Et par la moquerie, les insinuations perfides, l'intimidation, l'ennemi veut nous amener à l'incrédulité coupable en nous présentant tous les géants de l'impossibilité. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que confronté avec la même stratégie diabolique, les bâtisseurs d'Esdras, du livre d'Esdras, vont craquer. Alors que les bâtisseurs du livre de Néhémie vont persévérer et finalement triompher. D'un côté, Esdras, un assis, nous allons le voir, avec une terrible panne. De l'autre côté, les bâtisseurs de la muraille, avec Néhémie, et une victoire absolument remarquable. Donc, à quelque distance dans le temps, au même endroit, face à des ennemis du même type, parfois même, oui, du même type et de la même famille, des situations totalement opposées. Dans Esdras au chapitre 4 et au verset 24, Esdras 4, verset 24, il nous est dit, « Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. » Alors je vous indique, sans m'y arrêter, qu'il vous faut simplement, à la fin du verset 5 d'Esdras 4, il vous faut tirer un petit trait pour séparer en quelque sorte dans votre Bible le verset 5 du verset 6, et il vous faut faire un autre petit trait pour séparer le verset 23 du verset 24. Pourquoi ceci ? Eh bien tout simplement parce que quand on analyse le texte de près, on se rend compte que les versets 6 à 23 constitue une sorte de parenthèse, une succession d'exemples qui n'appartiennent pas tout à fait à la même période. Jusqu'au verset 4 et 5, il s'agit de la construction du temple. À partir du verset 6 et jusqu'au verset 23, il s'agit de la construction des murailles qui s'est faite après. Et quand on voit le nom des personnages, verset 6, le règne d'Assuérus, ou plus loin, le règne d'Artaxerxès, on se rend compte que ce sont des événements qui se situent plus loin dans le temps. C'est-à-dire que le rédacteur inspiré de ce chapitre a simplement voulu donner un certain nombre d'échantillons, d'exemples systématiques d'opposition de la part des Samaritains. Il dit en quelque sorte, non seulement au moment du retour de l'exil, les Samaritains ont essayé d'abord de s'infiltrer, puis d'intimider, mais ensuite, plus tard, du temps d'autres rois, ces mêmes Samaritains ont continué à agir de la même manière. Alors il donne un certain nombre d'exemples, et à la fin du verset 23, il revient à l'événement qui concerne les premiers chapitres d'Esdras, et il dit, alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse, c'est-à-dire entre 536 à peu près et 520. Environ une quinzaine d'années de panne, une quinzaine d'années pendant lesquelles la reconstruction du temple est abandonnée. Quelles sont les raisons de cette différence de réaction? Alors tout d'abord, il y a, à l'époque du début du livre d'Esdras, un esprit de défaite. Le défaitisme, l'incrédulité paralysante. Regardez avec moi le livre d'Agé. D'ailleurs, avant de prendre le livre d'Agé, regardez au chapitre 5 d'Esdras, verset 1er. Nous venons de lire la fin du chapitre 4, hein, le verset 24. Vous avez remarqué au chapitre 5, verset 1er, qu'il est question d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, qui prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Et alors Zorobabel et Josué se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Cela montre qu'au bout d'une quinzaine d'années de panne, Dieu suscite deux prophètes, Agé et Zacharie, qui vont s'adresser de sa part au peuple qui est en panne. Et nous allons voir donc dans le livre d'Agé notamment ce que ces deux prophètes, surtout Agé dans un premier temps, vont dire au peuple d'Israël, au peuple de Juda. Agé, chapitre 1er, Agé chapitre 1er, je lis déjà au verset 1er, la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, en août-septembre 520, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel, etc. Vous remarquez tout d'abord une chose, c'est que quand l'Éternel s'adresse à Juda, il ne dit pas « Mon peuple dit ». Qui d'entre vous est de son peuple, hein? Appartenir au peuple de Dieu. Ce qui est intéressant ici, c'est que la manière dont Dieu parle de Juda indique qu'il y a un froid entre l'Éternel et son peuple. Il ne dit pas « mon peuple », il dit « ce peuple ». Et c'est très intéressant dans l'Ancien Testament, Jérémie fera la même chose, d'autres prophètes feront la même chose, quand il y aura un fort tirage de mauvaises relations entre le peuple d'Israël et l'Éternel, les prophètes ne diront plus « le peuple de Dieu », mais ils diront « ce peuple ». Distance. C'est mon peuple, mais il y a quelque chose qui ne colle pas dans nos relations, voyez ? Et quel est donc le raisonnement de ce peuple? Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est une accusation. Et qu'est-ce qui se passait en réalité? Ces gens disaient, les temps sont mauvais. La conjoncture actuelle n'est pas favorable à la reconstruction. La situation est difficile, situation économique. Il y a l'opposition des voisins, des ennemis. Et on a échafaudé toutes sortes d'arguments. Or, un événement politique était intervenu. Et cet événement politique était intervenu déjà depuis peut-être une année. Le pouvoir en place allait changer. Et le nouveau pouvoir n'avait pas du tout les mêmes principes dans son attitude vis-à-vis des nations qu'il dominait. C'est-à-dire que Le peuple de Judas s'était simplement installé dans une attitude de résignation, de défaitisme, et qu'il n'avait pas tenu compte des changements politiques pour dire, ben, il faut qu'on y aille, il faut qu'on en profite, c'est le moment ou jamais, comme dirait l'autre, il y a des élections, allons-y. Tellement il avait pris l'habitude pendant cette quinzaine d'années de s'installer dans les plis du défaitisme. Le regard rivé sur les difficultés. Alors mes amis, moi je suis frappé de l'actualité du livre d'Agé. Est-ce que nous n'avons pas ce type de raisonnement aujourd'hui? Est-ce que nous ne disons pas dans notre pays de France, pour ne parler que de lui, les temps sont difficiles? Est-ce que nous ne disons pas la conjoncture économique est terriblement difficile, le chômage qui s'accroît, l'horizon bouché, la croissance de ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire de toute l'indifférence, au point que le spirituel divin de Dieu des Écritures compte de moins en moins, voire une hostilité croissante avec la montée du phénomène des sectes même de type para-évangélique, ça sent le soufre. On nous refuse ici de dresser un stand sur le marché, on nous refuse là de faire du colportage, telle municipalité nous refuse ailleurs, bien que nous soyons en association déclarée, de mettre à notre disposition une salle comme il se doit, ailleurs c'est monsieur le maire qui nous regarde de travers, et que sais-je encore. Non, décidément, la conjoncture n'est pas favorable. Avons-nous raison? Avons-nous raison de réagir de cette manière? Sommes-nous bien d'accord avec la manière dont Dieu raisonne? Non pas que nous ne devions pas être lucides sur les temps que nous vivons. Mais les temps que nous vivons, aussi difficiles soient-ils, devraient-ils être implacablement un empêchement à l'action de Dieu dans les cœurs? Dieu nous pose la question. Parce que lorsque je lis le début du livre de Néhémie, dans cette même situation conjoncturelle, dans cette même situation économique difficile, dans cette même situation d'opposition de la part des gens qui sont là autour du peuple de Dieu, la réaction va être totalement différente. Regardez avec moi maintenant dans Néhémie au chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Et au verset 20, Néhémie chapitre 2, verset 20, nous avons lu le verset 19, ces tentatives de découragement, d'intimidation, et quelle est la réponse de Néhémie? Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs. Et vous remarquez que Néhémie a le même raisonnement que les constructeurs du début du livre d'Esdras. Il dit pas d'amalgame. Nous, ses serviteurs, et nous seulement en quelque sorte, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons. Et à nouveau, insistance, pas d'amalgame, vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Si vous allez au chapitre 4 et au verset 4, nous avons lu les trois premiers versets, et au verset 4, et c'est absolument extraordinaire, il ne nous est même pas dit que Néhémie s'est mise à prier, ça coule de source. Immédiatement, le texte glisse dans la prière de Néhémie. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête, livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Une attitude d'indignation. On ne pleurniche pas, on ne se lamente pas, mais on dit à l'Éternel son indignation. Et vous remarquez, c'est intéressant, il est dit, ils ont offensé ceux qui bâtissent. C'est-à-dire qu'on s'installe dans une mentalité, non pas de défaitisme, mais de dignité de bâtisseur. Seigneur, ils ont offensé ceux qui bâtissent pour toi. Ceux qui sont sous tes ordres, tu es leur patron, tu les as embauchés, nous formons ton équipe, nous sommes les serviteurs du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et ils se moquent comme ça, en se moquant de nous, c'est de toi qu'ils se moquent, en nous offensant, c'est toi qu'ils offensent. Et ça c'est l'attitude de Néhémie tout au long du livre. Un dialogue continuel avec Dieu au fil des situations. Et vous savez que tout le livre de Néhémie est parcouru, jalonné, de ces prières, ces flèches qui montent vers le ciel spontanément. Néhémie, c'est l'homme qui prie comme il respire. Et il y a des passages extraordinaires, au chapitre 4 encore, et au verset 14, hein. Dans ce contexte d'inimitié, d'opposition, chapitre 4, verset 14, « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. » Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. C'est ça la différence. La différence se situe déjà au niveau de l'exemple des responsables. C'est par là que ça commence. L'exemple des responsables. L'importance des responsables au sein du peuple de Dieu. L'importance des conducteurs. Si vous voulez, on va faire un petit peu de gymnastique entre ces quelques livres que nous étudions côte à côte. Revenez avec moi à Agé chapitre 1er. Agé chapitre 1er. Regardons dans Agé chapitre 1er les premiers versets. Tout d'abord, le verset 1er, nous l'avons déjà lu, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à qui ? Non pas au peuple de Juda, mais d'abord à Agé, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que il est intéressant de constater que Dieu s'adresse au chef. Même s'il va parler ensuite du peuple, ce peuple dit, le message est adressé au chef. Si vous allez au verset 14, il nous est dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Mais d'abord, l'esprit des conducteurs. Si vous allez au chapitre 2, verset 2, parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Il y a là une indication de la responsabilité du recul du peuple. Et ce que Dieu dit par la bouche d'Agé, c'est que le recul du peuple a pour responsable ses conducteurs. C'est un problème d'abord de conducteur spirituel. Alors vous me dites, mais quelles sont les preuves ? Nous avons les preuves. Vous prenez le livre suivant, c'est-à-dire le livre de Zacharie, dont le début concerne exactement la même période, vous vous souvenez, hein, Agé et Zacharie, les deux prophètes qui parlent à quelques mois à peine d'intervalle. Et dans Zacharie, vous avez au chapitre 3, Zacharie chapitre 3, uniquement au problème des sacrificateurs en Juda dans les années qui suivirent. Où il nous a dit que ces sacrificateurs se conduisaient mal, qu'ils acceptaient d'offrir sur l'autel à l'Éternel des animaux que le peuple d'Israël leur apportait, qui étaient des animaux qui avaient la gale, qui étaient malades, qui étaient boiteux. Je dirais, aujourd'hui, on aurait offert à l'Éternel des vaches folles. Et on comprend ce que ça veut dire. Et il y a dans le livre de Malachie des plaidoyers, n'est-ce pas, au chapitre 2, condamnation des sacrificateurs. Et il est question des sacrificateurs anciens, à l'époque où ils étaient fidèles. Il est dit au verset 5, « Mon alliance avec Lévi était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne, il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. » La loi de la vérité était dans sa bouche, l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix, dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Ça, c'était la beauté du témoignage des premiers sacrificateurs. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute, etc., etc. Voilà le problème des conducteurs spirituels qui rejaillissaient sur chacun des membres du peuple de Dieu en Juda. Vous voulez avoir des nouvelles de Zorobabel? Est-ce que Zorobabel valait mieux? Alors regardez Zorobabel dans Zacharie chapitre 4. Pourquoi est-ce que nous avons lu ces versets 7 et suivants? Regardez au verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et vous connaissez ce texte, nous l'avons lu tout à l'heure, sur la grande montagne, sur le mépris des faibles commencements. Qu'est-ce que ça indique? C'est un texte qui transpire le problème du gouverneur, du chef politique. Zorobabel était un défaitiste. Et en réalité, il entraînait le peuple de Juda dans le défaitisme. Il avait oublié que l'action de Dieu n'est pas liée d'abord à nos stratégies, à notre puissance physique, à toutes nos capacités intellectuelles, mais au Saint-Esprit. Ce n'est ni par la violence, ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Zorobabel, tu devrais apprendre à compter sur la puissance de mon esprit. Certes, si tu essayes avec tes propres forces de t'attaquer à toutes les grandes montagnes d'incrédulité, tu n'y arriveras pas. Mais si tu apprends à compter sur mon esprit, sur ma puissance, Zorobabel, si tu acceptes de te laisser oindre et remplir en quelque sorte de l'huile de mon esprit qui découle du vase d'or, ça c'est le début de la vision du chapitre 4. Si tu as une relation personnelle avec ce vase d'or rempli d'huile, faite pour nourrir les mèches du chandelier, alors, là tu auras la victoire. Si tu comptes sur tes propres forces, bien entendu, tu vas être inévitablement défaitiste. Et là, nous touchons quand même à quelque chose que je me dois de partager si souvent. Les responsables des églises oublient leur part de responsabilité dans l'état du peuple de Dieu aujourd'hui. Les chefs n'ont pas donné l'exemple dans le domaine de la sainteté dans le foi et de la foi. Le peuple a alors failli dans ces deux domaines. Comme quelqu'un l'a dit, on ne peut amener l'église plus loin que là où l'on est soi-même arrivé. Je lisais hier ou avant-hier, hier je crois, un exemple dans une méditation quotidienne. Cela se passe aux États-Unis. Il est question des funérailles d'un vétéran auquel ses camarades d'armée, vis-à-vis desquels ses camarades d'armée avaient un rôle à jouer dans ce service. Et les amis du défunt ont demandé au pasteur de les conduire jusqu'au cercueil pour y prier pendant un moment. Et ensuite, ils devaient suivre le pasteur et sortir par une porte latérale de la chapelle. Et le commentateur explique que le plan a été exécuté avec une précision militaire jusqu'à ce que le pasteur les conduise dans une armoire à balai. Les soldats ont dû se retirer dans le désordre total. Il s'est trompé de porte. Et le commentateur d'ajouter, ce pasteur a commis une erreur sans le vouloir, mais cela montre bien que les leaders doivent savoir où ils vont. Car là où les leaders vont, les disciples vont aussi. Et dit d'une certaine manière, en Juda, du temps du début du livre d'Esdras, les deux leaders ont conduit Juda dans un placard à balai. Esprit de défaitisme, esprit de défaitisme. Chez Néhémie, il n'en est pas ainsi. Nous l'avons vu. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et c'est là que nous rejoignons notre décret de Cyrus dans Esdras chapitre 1er, verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Que son Dieu soit avec lui. Condition absolument fondamentale, je dois m'assurer absolument que mon Dieu est avec moi pour conduire l'Église. Et nous allons voir que c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'il y paraît. Dans le livre d'Agé, vous avez peut-être remarqué avec moi dans nos lectures, au verset 2 du chapitre 1er, « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Remarquez cette manière dont Dieu est présenté. L'Éternel des armées. Alors, je me suis livré à quelques recherches et j'ai constaté, tenez-vous bien, que entre Agée chapitre 1er, verset 2, nous venons de lire, et Malachie, chapitre 4, verset 3, Dieu est présenté 88 fois sur ces quelques chapitres comme l'Éternel des armées. Dans Agé, qui ne compte que deux chapitres, Dieu est présenté 14 fois comme l'Éternel des armées. Dans Zacharie, qui compte 14 chapitres, Dieu est présenté 50 fois comme l'Éternel des armées. Et dans Malachie, qui ne compte que 4 chapitres, Dieu est présenté 24 fois comme l'Éternel des armées, soit 88 fois sur 20 chapitres. Si je vous disais, par exemple, que ce titre, l'Éternel des armées, n'est jamais utilisé dans les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, et que dans le livre d'Ésaïe, dans les 54 premiers chapitres, il ne figure que 61 fois, en 54 chapitres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ces livres, le titre de Dieu a beaucoup d'importance. Pourquoi est-ce que quand Dieu parle par Agé, Zacharie, Malachie, il se présente comme l'Éternel des armées? Précisément à cause de cet esprit de défaitisme. Il dit en quelque sorte au peuple, mais regardez-moi comme ce que je suis. C'est une sorte de rappel insistant quant à la souveraineté de Dieu, quant à la puissance de Dieu sur l'univers tout entier dont il est le créateur. Il est le chef des armées terrestres et célestes, il est le maître absolu de l'univers, le tout-puissant, le fort d'Israël. Et là, Je pense à un extrait de texte très intéressant. Bien que les Juifs aient vu les immenses armées ennemies rangées en ordre de bataille contre eux ou défilant dans leur propre pays lointain, ils étaient sûrs que l'Éternel possédait des escadrons encore plus immenses et que toutes les puissances de la nature, toute l'agitation des volontés humaines, tous les royaumes invisibles des morts, toutes les principautés et puissances du ciel, archanges, anges, séraphins et chérubins, se tenaient aux ordres de sa puissance souveraine, allant et venant, faisant ceci ou cela selon sa volonté. Relève la tête, enfant de Dieu. Ton père est aussi le grand roi qui agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Quelle est notre vision de Dieu? Quelle est notre vision de Dieu? C'est ça notre vrai problème. Nous sommes tellement immergés dans nos problèmes, dans ces informations ultra négatives dont on nous bombarde du matin au soir, que nous finissons par décrocher notre regard de la souveraineté de Dieu, de la puissance d'un grand Dieu. Quelqu'un a écrit dans un livre absolument remarquable: il se sert de sa haute prééminence pour être notre représentant. Il nous reconnaît déjà comme étant assis avec lui dans les lieux célestes. C'est pourquoi sa résurrection entraîne la nôtre, son triomphe le nôtre, son ascension la nôtre. Il nous fait participer à ses droits. Avons-nous besoin qu'on exerce en notre faveur une autorité qui transcende, qui dépasse toute autre autorité? Il nous suffit alors de nous rappeler qu'il est assis là-haut, très haut, au-dessus de toutes les principautés. Avons-nous besoin d'une force qui surpasse les forces les plus puissantes de la nature ou du mal? Eh bien, il est assis loin, au-dessus de toute force et de toute puissance. Demandons-nous quelque chose que même la loi naturelle ne semble pas pouvoir faire? Souvenons-nous que Dieu a déjà triomphé de la loi naturelle en ressuscitant Christ d'entre les morts. Sommes-nous confrontés à des personnages imposants? Sommes-nous méprisés par l'orgueil humain? Sachons alors que nous sommes assis côte à côte avec celui dont le nom est exalté au-dessus de tout nom. Quelle est notre vision de Dieu? D'ailleurs, dans le livre d'Agé, c'est quand même absolument intéressant de voir, par exemple, dans Agé 1.13, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. Je suis avec vous. » Si vous allez voir dans le chapitre 2 et au verset 4, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. » Pourquoi? « Car je suis avec vous. » Car je suis avec vous. C'est là la clé, c'est là absolument l'essentiel. Et si vous allez dans le livre de Zacharie, c'est extraordinaire, on pourrait passer des heures, hein. Zacharie chapitre 1er, verset 14. L'ange qui me parlait me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. C'est une autre manière de dire, je suis avec vous. Je reviens à l'Éternel avec compassion, ma maison y sera rebâtie. Et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Comme si Dieu voulait dire à ce peuple de Juda découragé, mais ne vous intéressez pas donc à tout ce que les grands, les politiciens et autres disent, comme s'ils gouvernaient le monde, comme s'ils étaient des petits dieux qui pouvaient faire ce qu'ils veulent. Non, c'est moi qui gouverne. Regardez la suite. Je levais les yeux, je regardais. Voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui me parlait, mais que sont ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Les puissances ennemies qui se sont attaquées à Israël et Jérusalem.
L'Éternel me fit voir quatre forgerons, les forgerons de Dieu. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda au point que nul ne lève la tête. Ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Vous avez eu des problèmes avec les Babyloniens, avec les Assyriens, avec les Samaritains. Vous avez eu des problèmes avec les Égyptiens, les Arabes, avec les Philistins, les Ammonites, les Moabites. N'oubliez pas que j'ai des forgerons en réserve. Pour s'occuper d'eux, on ne fait pas ce qu'on veut sur la terre, même quand on s'appelle Bill Clinton, ou Boris Yeltsin, ou Jacques Chirac, ou le maire de ma cité, vis-à-vis duquel j'ai beaucoup de respect, pour lequel je prie. Mais je sais qu'au-dessus de monsieur le maire et du conseil municipal, il y a Dieu. Et quand il y a peu de temps, 15 jours, 3 semaines, la municipalité d'Orléans, qui est la région dans laquelle j'habite, tout à fait à proximité d'Orléans, mais la municipalité d'Orléans, en quelque sorte, voulait d'une certaine manière interdire à notre église de faire du colportage, de dresser son stand sur les marchés, ce qu'elle faisait depuis des années et des années, simplement parce qu'on a peur des sectes, on se demande si cette église n'est pas une secte. Et que chaque fois que les responsables allaient frapper à la préfecture, à la mairie, etc., on les renvoyait d'un bureau à l'autre, plutôt que de leur dire d'une manière très nette, vous n'aurez pas un point, c'est tout. Dieu est au-dessus. Dieu est au-dessus. Et je me souviens de ce dimanche matin où quelqu'un m'a saisi de ce problème et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Et pendant la nuit, Dieu m'a rappelé de manière très nette, mais très très nette, le nom d'un personnage clé. Et m'a dit, mais téléphone-lui. Et le lendemain matin, je lui ai téléphoné. Il était là. Et immédiatement, il a pris l'affaire en main, et le lendemain, tout était réglé. Dieu agit. Ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nous baissons si vite les bras. Nous baissons si vite les bras. Parce que nous nous laissons impressionner par les hommes. Au lieu de nous laisser impressionner par notre Dieu, regardez la suite du texte. Vous aurez envie de lire Zacharie après ça. Hein? Chapitre 2, verset 1er. Je levai les yeux. Je regardai, voici, il y avait un homme tenant dans la main, on dirait une chaîne d'arpenteur aujourd'hui, hein, pour mesurer. Je lui dis, où vas-tu? Il me répondit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle largeur, de quelle longueur elle doit être. Hein, tout le programme de reconstruction. Et voici l'ange qui me parlait s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire au jeune homme qui est en train de prendre les mesures, mais mon avis, mon ami, ta chaîne d'arpenteur, elle est trop petite. Tu fais des rues de telle taille? Tu donnes telle limite à Jérusalem? Ta vision est trop étriquée. N'aie pas peur, ce sera beaucoup plus grand que tu peux le penser. Parce que je suis l'Éternel. Parce que je suis l'Éternel. Et je serai une muraille de feu tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. Quel beau texte. Rectification d'une vision, rectification d'un regard. Que son Dieu soit avec lui. Et là aussi, j'ai été frappé par un texte lu hier. C'est une petite illustration. Faites un appel gratuit. C'est une pub, hein? Je pense au Canada. Faites un appel gratuit et Jésus est à vous. C'est la garantie que donne une publicité qui annonce une, entre guillemets, poupée Jésus, lavable à la machine, mesurant quelque 60 cm, la poupée porte une robe écarlate sur une tunique blanche avec un cœur rouge. La publicité dit que les enfants aimeront serrer la poupée dans leurs bras et que les personnes âgées et celles qui souffrent sur le plan émotionnel y trouveront la source de consolation. Alors, pour seulement $29.95, Jésus est à vous. Alors j'aime opposer à cette publicité blasphématoire cette parole, que son Dieu soit avec lui. Ce grand Dieu, pas ce petit Jésus de pub, n'est-ce pas? Mais ce grand Dieu absolument extraordinaire. Je pense à John Wesley, cet homme de Dieu remarquable qui, sur son lit de mort, rassemble ses forces et s'écrie « Le meilleur de tout ». C'est que Dieu est avec nous. Et qui répète cette expression. Le meilleur de tout, c'est que Dieu est avec nous. Je pense à David Livingstone, ce missionnaire et découvreur de l'Afrique tout à la fois, qui part à une époque où les missions étaient bien autre chose que ce qu'elles sont même maintenant. Et on se faisait beaucoup de soucis pour lui au moment où il allait prendre le bateau et l'un d'eux le supplia de ne pas y aller. Et parce que Livingstone était convaincu qu'il faisait la volonté de Dieu, il ouvre sa Bible et il lit à son ami inquiet les paroles de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il ajoute ceci, cela mon ami, c'est la parole d'un gentleman. Alors, disons-nous au revoir. Et bien des années plus tard, il rentre d'Afrique et à Glasgow, à l'université de Glasgow, il s'adresse à des étudiants. Il est amaigri, il est affaibli par les maladies tropicales, il a un bras qui pend, broyé par un lion, et pourtant il est plein d'enthousiasme. Et il va dire ceci à son auditoire. Aimeriez-vous que je vous dise ce qui m'a soutenu pendant toutes ces années d'exil, parmi un peuple dont je ne pouvais pas comprendre la langue et dont le comportement envers moi était toujours imprévisible et souvent hostile? C'est ceci. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'ai tout misé sur ces paroles et elles ne m'ont jamais fait défaut. Tellement plus près de nous, 1994, un chrétien, authentique enfant de Dieu, en Iran, Mehdi Dibaj, devant un tribunal islamique qui le condamne à mort pour avoir quitté l'islam et qui dit « D'avoir le monde entier contre moi ne me gêne pas, pour autant que je sache que le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Ça ne me fait rien de passer pour un renégat, car je trouve plaisir devant le Dieu de gloire. Mon Dieu est avec moi. » Hudson Taylor disait ceci, « Tous les géants de Dieu ont été de faibles hommes qui ont fait de grandes choses pour Dieu parce qu'ils comptaient sur la présence de Dieu en eux. » Pour devenir un bâtisseur, il faut avoir une juste vision de Dieu et avoir vraiment la certitude que mon Dieu est avec moi. Et il ne suffit pas d'être né de nouveau pour que Dieu soit avec moi. Il y a des moments dans ma vie où Dieu est contre moi. Je lui appartiens, mais il est contre moi. Regardez, et nous terminerons avec ce texte. Regardez Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 39, que lisons-nous dans les trois premiers versets? On fit descendre Joseph en Égypte, Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna, et il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Et c'est un témoignage tellement fort que dans le Nouveau Testament, dans Actes 7, 10, il est question de Joseph et qu'il est dit dans Actes 7, 10, « Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. » Ça a tellement marqué les lecteurs de ce texte que dans le Nouveau Testament, cela a été repris. Dieu fut avec lui. Combien de fois avons-nous lu cela dans Genèse 39? Vous avez fait le compte? Combien de fois l'expression « l'Éternel fut avec lui » se trouve-t-elle dans Genèse 39? 4 fois. Hein, 2 fois au début du chapitre, 2 fois à la fin du chapitre. Ce qui me bouleverse, c'est de voir ce qui est dit au verset 7 maintenant. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. Couche avec moi. » Il refusa. Et il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté par toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu ?» Immédiatement, il pense à la sainteté de Dieu, au caractère de Dieu. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main, il s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. » Combien de fois dans Genèse 39 est-il dit que Joseph était invité à coucher avec elle? Combien de fois? 4 fois. On vient de lire 4 fois cette expression. Avec moi, ou avec elle, couche avec moi. Alors c'est quand même frappant, dans Genèse 39, que 4 fois, il est dit que Dieu fut avec Joseph, et que 4 fois, une femme lui a dit, couche avec moi. Dieu veut nous dire quelque chose. Ce qu'il veut nous dire, c'est que il est avec nous quand nous ne sommes pas dans le lit de l'adultère. Dieu ne peut pas être avec moi si moi, j'accepte de coucher avec, en dehors de la volonté de Dieu. Et ce que nous disons ici, de l'adultère, nous pourrions le dire de temps et temps d'autres domaines. Nous voulons que Dieu soit avec nous quand nous construisons notre église locale. Ben mes bien-aimés, ça veut dire une chose, c'est qu'il faut faire le ménage. Ça veut dire qu'il faut faire le ménage, peut-être dans notre bibliothèque. Parce que Dieu ne peut pas être avec moi si je vis avec des livres qui ferait rougir de confusion le Seigneur s'il osait y jeter un regard, et c'est une image.
Je dois peut-être faire du ménage au niveau des vidéos que j'ai dans ma vidéothèque, à côté de mon magnétoscope à la maison. Comment Dieu serait-il avec moi si avec moi sont des vidéos qui sont une insulte à la sainteté, à la justice de Dieu? Et nous pourrions ainsi continuer. Et mes bien-aimés, nous touchons là au problème de l'Église évangélique et de nos églises et du peuple de Dieu dans nos pays actuellement. Nous voudrions bien que Dieu soit avec nous, mais nous ne sommes pas prêts à faire le ménage. Alors le résultat, c'est que quand le diable nous souffle à l'oreille, « Vous êtes trop petit, il y a une grande montagne, les faibles commencements » et tout ce que nous avons dit, eh bien nous disons au diable, « Ok, t'as raison. » T'as raison. Nous n'avons pas, à cause de cela, la vision de la puissance de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, de la souveraineté de Dieu et des capacités extraordinaires du Saint-Esprit pour vaincre les montagnes, pour faire l'œuvre de Dieu. Tout est là. Alors que Dieu nous donne simplement, il le fait, la grâce d'avoir soif de vivre la réalité de cette injonction que son Dieu soit avec lui. Posons-nous la question. Est-ce que Dieu est avec moi aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas du ménage à faire à quelque part? Est-ce que ma vision de Dieu n'est pas grignotée par des mythes, par la rouille, par les teignes, par toutes sortes de microbes et autres choses qui font que je cède à la tentation de la résignation, du découragement, au lieu comme Néhémie de prier, de proclamer la victoire du Seigneur, sa souveraineté, son intervention miraculeuse dans des situations impossibles parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Je vous laisse et je m'arrête. Ce texte d'Actes 10, 38, parce qu'il nous tourne dans la meilleure des directions. Comment Dieu, à oint d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, a dit à diverses reprises que le Père était avec lui parce qu'il faisait toujours ce qui lui était agréable. Et vous connaissez ce texte de Philippiens 4, que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, ce qui est vertueux, honorable, digne de louange, soit l'objet de vos pensées, et le Dieu de paix sera avec vous.